Il est 20h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
Clotilde Dumais.
À la une ce soir, les Européens qui tentent d'exister tant bien que mal face à Washington dans les discussions sur la guerre en Ukraine. Le vice-président américain a rencontré Volodymyr Zelensky et assure vouloir une paix durable pour Kiev. Sur le plan national, les décrets signés par Donald Trump continuent d'être contestés en justice. La suspension de l'aide internationale décidée par le président américain a été bloquée par un juge de l'État de Washington. Dans l'actualité également, le président congolais Félix Tshisekedi annule sa venue au sommet de l'Union africaine alors que le M23 avance dans le sud Kivu à l'est de la RDC. Et puis le début des victoires de la musique, la cérémonie qui récompense les artistes français. Washington veut donc une paix durable en Ukraine, c'est ce qu'assure le vice-président américain. J.D. Vance a rencontré Volodymyr Zelensky en marge de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne. Une bonne conversation selon les deux hommes qui sont, selon le président ukrainien, prêts à avancer le plus rapidement possible vers une paix réelle et garantie. Volodymyr Zelensky assure qu'il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine, mais seulement après avoir un plan commun avec Donald Trump et l'Europe, les Européens qui observent ces discussions en craignant d'être mis à l'écart et qui tentent donc, Julien Chavanne, de revenir dans le jeu.
Il le répète, rien ne pourra se faire sans eux. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a profité de la tribune de Munich pour lancer un avertissement aux États-Unis.
President Putin says he's willing to meet.
Le président Poutine a déclaré qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants ukrainiens. Mais à quelles conditions? Il lui appartient de montrer qu'il a renoncé à son ambition de détruire l'Ukraine. Et je vais être très clair, affaiblir l'Ukraine affaiblirait l'Europe, mais aussi les États-Unis.
Le premier concerné a rappelé ses lignes rouges. Volodymyr Zelensky participait à une table ronde à Munich.
Ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une position de principe sur laquelle nous ne reculerons jamais avec l'aide de nos amis d'Europe. Il est essentiel de ne pas perdre cette unité. Je suis si fier que nous fassions partie d'une Europe aussi forte.
Emmanuel Macron a aussi haussé le ton dans le Financial Times. Le président français met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Les Européens tentent de relever la tête, mais sans de véritables alternatives concrètes au plan de Donald Trump.
Et les États-Unis affirment en tout cas avoir à cœur de garantir l'indépendance souveraine de l'Ukraine. Il y a des moyens de pression économique et militaire face à la Russie, assure le vice-président américain. Mais concrètement, que faut-il attendre des négociations à venir? Quelle sorte d'accord les États-Unis de Donald Trump peuvent-ils conclure avec Vladimir Poutine? Écoutez l'analyse de Gérard Arrault, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies.
Poutine attendait l'élection américaine, il espérait l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, les questions territoriales sont réglées. La Russie gardera les territoires qu'elle a conquis. Et la question qui va porter, qui va être l'essentiel de la négociation, c'est le statut du reste de l'Ukraine. Certes, comme les Américains l'ont dit, l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN, mais est-ce qu'il y aura une forme de garantie de la sécurité de l'Ukraine? Car si l'Ukraine est neutre, comme les Russes le demandent, cela voudrait dire que l'Ukraine sera vassalisée par la Russie, deviendra une seconde Biélorussie. Donc, quelle sera la garantie de sécurité? Le diable est dans le détail. Est-ce que les Américains, est-ce que Donald Trump, en réalité, sera assez dur pour essayer d'arracher à la Russie quelque chose de significatif? Mais vous le voyez bien, nous les Européens qui serons appelés à financer la reconstruction et peut-être à assurer la sécurité de l'Ukraine, nous ne sommes plus que des spectateurs.
Gérard Arrault, interrogé par Anne Cantner à la mi-journée sur RFI. Les Européens, spectateurs des nombreuses attaques du clan Trump, le vice-président américain a dans un premier temps à Munich très peu évoqué la guerre en Ukraine. J.D. Vance a préféré critiquer la démocratie en Europe avec une liberté d'expression en retrait, selon lui, et le recul de certaines valeurs fondamentales. La liberté d'expression est menacée en Europe, insiste à l'instant le président américain. Pendant ce temps, aux États-Unis, la bataille judiciaire se poursuit concernant les décrets de Donald Trump. Un juge fédéral de l'État de Washington a bloqué la suspension de l'aide internationale décidée par l'administration. Correspondance de Guillaume Nodin.
C'était l'une des premières décisions de l'administration Trump le tout premier jour. Suspendre toute l'aide internationale, hors aide d'urgence et aide humanitaire, le temps d'évaluer les programmes et de prendre une décision sur leur avenir. Cette décision, le juge Amir Ali a décidé de la bloquer. Il la bloque parce qu'il explique qu'il n'en comprend pas la logique. Il se demande en quoi il est nécessaire pour procéder à des évaluations de stopper net des contrats avec des entreprises et des organisations qui se retrouvent subitement privées de financement. Il s'interroge aussi sur la légalité de la mesure et se demande de quel droit une administration bloque des financements qui ont été votés par le Congrès lors d'une précédente législature. Le juge Ali, nommé par Joe Biden, demande à l'administration de montrer qu'elle se soumet à sa décision d'ici à mardi. Parallèlement, un autre juge bloque pour au moins une semaine la décision de l'administration de démanteler de fait l'USAID, l'agence américaine pour le développement international. Vendredi dernier, 97% du personnel de l'agence, qualifié d'organisation criminelle par Elon Musk, a été placé en congé administratif sans salaire. Le juge s'interroge sur la sécurité du personnel à l'étranger. Des employés en poste en RDC se décrivent comme abandonnés en période de pillage et de violence politique. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
C'est une preuve de plus que l'Union des pays arabes contre la proposition de Donald Trump qui veut déplacer les habitants de la bande de Gaza. Ils vont se réunir jeudi prochain à Riyad en Arabie Saoudite. L'objectif est justement d'examiner en profondeur le plan des Américains et d'élaborer une réponse des pays arabes. Le Hamas, lui, a dit s'attendre à ce que la deuxième phase des négociations sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza commence en début de semaine prochaine. Pour le moment, après plusieurs jours d'incertitude sur le maintien de la trêve, eh bien le mouvement islamiste palestinien doit relâcher trois otages samedi. Israël dit avoir reçu leur identité. Des otages qui doivent une nouvelle fois être échangés contre la libération de 369 prisonniers palestiniens. Le président congolais dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, Félix Tshisekedi a évoqué la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combattants du M23 soutenus par les Rwandais avancent dans le sud Kivu. Suite aux derniers événements, le président Félix Tshisekedi a justement écourté son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. Il ne se rendra pas au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba comme c'était prévu initialement. Il a agi pour des motifs religieux selon les autorités. En Allemagne, l'auteur de l'attentat à la voiture Bélier a reconnu avoir percuté volontairement les participants d'une manifestation hier à Munich. 39 personnes ont été blessées selon un dernier bilan, dont deux grièvement. Le suspect, un jeune Afghan avec une orientation islamiste selon la police, a été mis en examen et transféré dans un établissement pénitentiaire bavarois. À Grenoble, dans le sud-est de la France, le patron du bar blessé dans l'explosion d'une grenade pense qu'il était visé. Lui et son fils détiennent de lourds casiers judiciaires, selon le parquet de Lyon. L'auteur de cette attaque à la grenade, qui était cagoulé et armé d'un fusil d'assaut, est toujours recherché 2 jours après l'explosion. Le ministre de l'Intérieur évoque une opération criminelle inédite, une technique de guerre. Bruno Retailleau, qui était en déplacement à Grenoble sur les lieux de cette attaque. Après plusieurs plaintes en Algérie, c'est en France que l'écrivain Kamel Daoud a reçu une assignation en justice pour atteinte à la vie privée. Lors de la sortie de son dernier roman Ouris, lauréat du prix Goncourt 2024, Saada Arban, une jeune Algérienne, s'est reconnue dans l'un des personnages du livre et elle a accusé l'auteur de lui avoir volé son histoire. Rescapée d'un massacre datant de la guerre civile, elle avait raconté ce drame personnel à sa psychiatre, qui n'est autre que l'épouse de Kamel Daoud, mais qui, elle, nie ses accusations. Lily Ravonne, l'une des avocate de la plaignante, détaille le contenu de l'assignation déposée au tribunal judiciaire de Paris.
D'abord, c'est un très grand nombre de similitudes qui ont rendu Madame Saada Arban immédiatement identifiable, reconnaissable. Le fait que ces éléments sont attentatoires à sa vie privée, parce qu'il y a des éléments qui sont extrêmement intimes, comme sa tentative d'avortement, qui l'expose même à des poursuites pénales en Algérie. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la mauvaise foi dont a fait part Kamel Daoud, qui, à 3 reprises, soit directement, soit par l'entremise de sa femme, a demandé expressément à Saada Arban d'utiliser son histoire pour en faire un livre. Saada Arban a rejeté sans aucune ambiguïté cette proposition. Et c'est en se concentrant strictement sur le droit et rien d'autre qu'on en tire les conclusions qui sont les nôtres aujourd'hui.
Une première audience est prévue le 7 mai prochain au tribunal judiciaire de Paris. Et puis le début en ce moment même des Victoires de la musique, 40e édition de cette cérémonie qui récompense les artistes français avec parmi les favoris les chanteuses Santa, Zao de Sagazan, Clara Luciani ou encore le duo électro Justice.